Radio Fribourg, spéciale élection fédérale.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à vous qui êtes avec nous ici au bureau à Bulle ou à vous qui nous suivez derrière votre poste de radio. N'hésitez pas d'ailleurs, il en est encore temps à nous rejoindre ici. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce deuxième débat consacré aux élections fédérales du 18 octobre. Nous allons discuter ce soir jusque vers 19h de politique familiale, enfin jusque vers 20h de politique familiale ainsi que de tourisme avec 5 candidats au Conseil national à la Chambre du Peuple. Nous allons vous les présenter de suite avec vous, Julien Bangerter. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme Fabre. Bonsoir à tous. Effectivement, présentation de nos 5 candidats, à commencer par Jean-Pierre Douta, le candidat du Parti démocrate chrétien du PDC. Bonsoir. Vous avez 56 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants, chef d'entreprise dans l'ébénisterie, député au Grand Conseil et puis aussi syndic de Gruyère. Alors, question Jean-Pierre Douta, vous êtes le président du comité d'organisation de Tutti Quanti 2016, la fête des chanteurs fribourgeois l'an prochain à Bulle. Si vous êtes élu à Berne, vous allez faire chanter vos collègues parlementaires?
Ah, j'espère en tout cas leur donner cette atmosphère exceptionnelle qu'a le canton de Fribourg dans l'art choral. Et vous savez, quand on est tous autour d'une table, autour d'un chœur, on a beaucoup le cœur à l'ouvrage, on a le cœur à chanter. Et s'ils ont envie de chanter parfois, pourquoi pas?
Candidat suivant, c'est une candidate, Nadine Gobet, du Parti libéral radical. Bonsoir. Vous avez 45 ans, vous êtes directrice de la Fédération patronale et économique, députée au Grand Conseil, vice-présidente du Conseil de la magistrature. Alors sur Facebook, on vous voit dans des caves à fromage gruérienne, en dégustatrice. Si vous êtes élue à Berne, votre politique, elle sera comment? Alors plutôt douce, plutôt mi-salée ou bien corsée?
Corsée. C'est vrai que sur Facebook, vous avez vu des photos, c'est parce que j'ai une fonction au sein de l'interprofession du Vacherin fribourgeois, où j'ai remplacé ad intérim Christian Castel.
La deuxième candidate présente ce soir à ce débat ici au bureau à Bulle, c'est Claire Uzer-Bossel, la candidate du Parti bourgeois démocratique du PPD. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Claire Uzer-Bossel, vous avez 60 ans, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, physiothérapeute et maîtresse d'éducation physique, également présidente du PPD Gruyère, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Une question à vous aussi, Claire Uzer-Bossel. À Fribourg, les membres de votre parti, du PPD, qui sont élus dans un législatif, en tout cas au Grand Conseil, ont un peu la tendance de finir par s'inscrire au PDC, vous le savez sans doute. Si vous allez à Berne, est-ce que vous resterez membre du PPD?
J'espère bien que oui, dans le sens que pour moi, le PPD est vraiment le parti qui permet d'être libre de prendre des positions autant à droite qu'à gauche qu'au centre, c'est-à-dire de créer avec une idée du centre ou de la droite ou de la gauche une troisième idée, pas d'avoir un clivage gauche-droite. Et ça me paraît important.
Le candidat suivant, c'est Pierre Morand du Parti Socialiste. Bonsoir Pierre Morand.
Bonsoir.
Vous avez 43 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes avocat, vous êtes député au Grand Conseil, vous êtes chef du groupe socialiste au Grand Conseil. Une question pour vous, en campagne, on vous voit souvent avec Christian Levrat. Est-ce que vous allez vous en sortir sans lui ce soir?
Alors ça fait depuis 10 ans que je mène ce groupe PS au Grand Conseil. Je ne l'ai jamais vu caché dans un coin du tiroir. 15 ans comme avocat, il n'était pas au fond du bureau. Et puis à la SLOCA, quand on donne nos conseils les lundis soirs au centre social, je ne l'ai pas vu non plus sous la table. Alors croyez-moi, il n'y aura aucun souci sans Christian ce soir. Mais c'est un ami de très longue date avec qui on a partagé de très très longues choses depuis maintenant, je dirais, plus de 25 ans. Et ça restera de toute manière un très bon ami.
Et le candidat de l'UDC ce soir, Pierre-André Page. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre-André Page, 55 ans, marié, père de 3 enfants, agriculteur, député au Grand Conseil, président de ce même Grand Conseil en 2009, et puis ex-syndic de Châtenay. Question pour vous, Pierre-André Page, vous n'êtes de loin pas à votre première campagne cette fois-ci. Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la dernière?
Alors je pense que c'est la bonne. Je crois que nous avons fait tout le travail pour arriver à obtenir ce deuxième siège. J'ai fait des bons résultats les 2 dernières candidatures. J'étais devant des candidats brillants comme M. Bourgeois, Mme Biard. J'avais un meilleur résultat personnel. Donc je pense que cette fois, c'est pour ça que je suis reparti. Hein. J'ai dit cette fois c'est la bonne, on y va et on va gagner ce deuxième siège pour l'UDC.
Et dans ce débat en tout cas, on va y aller tout de suite avec le premier thème de la soirée, la politique familiale, la famille, une question qui préoccupe le monde politique avec par exemple la possible inscription dans la Constitution de la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, mais alors aussi peut-être dans le même temps un mariage entre personnes de même sexe qui est aussi de plus en plus souvent évoqué, Jérôme.
Et en tout cas pour l'instant, les couples homosexuels peuvent s'unir grâce à un partenariat enregistré. Le Conseil national PLR Andrea Caroni propose d'étendre ce type d'union à tous les couples, en fait d'introduire un PACS à la française, une station intermédiaire entre rien et le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Douta, peut-être vous, le candidat du Parti démocrate chrétien, que pensez-vous d'une forme, on va dire, intermédiaire de mariage ?
Écoutez, je vous remercie pour cette question. Donc la politique familiale du PDC a toujours été axée sur les défis qui se posent actuellement aux familles. Et il est vrai que depuis quelques décennies, la forme de la famille évolue et nous devons certainement évoluer aussi dans cette forme de partenariat. Et le PACS qui a été mis en place il y a déjà quelques années était tout à fait dans cet esprit. Aujourd'hui, on doit encore se poser des questions sur l'ensemble de ces contrats finalement que l'on fait. Et personnellement, j'aimerais tellement trouver un autre mot que le mot mariage pour tous, parce que finalement, ce mot mariage pour tous, il est d'une banalité. Il peut être d'une banalité certaine. Personnellement, j'imagine mal un mariage pour tous comme on l'applique aujourd'hui pour les personnes mariées, disons, de manière contractuelle, selon la tradition. Il est difficile pour moi de dire que un couple d'homosexuels ou un couple paxé puisse avoir les mêmes conditions. Aujourd'hui, il a quasi les mêmes conditions qu'un couple marié, si ce n'est l'adoption. Pour moi, j'estime qu'il serait une erreur de mettre dans la Constitution fédérale que cette adoption puisse intervenir pour tout le monde. J'ai eu un peu de peine avec ça, donc je suis contre le mariage pour tous sous cette forme de vocabulaire.
Mais si on revient à la question au projet Caroni, c'est vraiment la forme de partenariat enregistré pour tous, si vous voulez. C'est l'inverse, c'est d'offrir aux couples hétérosexuels cette possibilité qui est offerte aujourd'hui aux couples homosexuels. Ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je vous ai répondu par ma réponse tout à l'heure. Ça veut dire que je suis naturellement pas favorable à un PAX pour tous. J'estime qu'il y a les valeurs, des valeurs humaines, des valeurs, je dirais, qui nous ont été créées, qui font que l'homme et la femme doivent pouvoir procréer, et puis que d'autres vies peuvent être absolument mises en place et puissent être légalement acceptées. Mais je ne pense pas qu'il est indispensable de paxer tout le monde.
Pierre Morand, alors, l'avocat qui est en vous, qu'est-ce qu'il pense d'une forme de mariage, et le socialiste aussi qui est en vous, bien évidemment, qu'est-ce qu'il pense de cette forme intermédiaire d'union civile ?
Si vous voulez, pour moi, l'important, c'est d'avoir un signal progressiste fort qui doit être donné maintenant. Il y a des siècles, effectivement, qu'un mariage tout à fait conforme entre un homme et une femme était défendu par le PDC, et je trouve qu'il devrait un tout petit peu évoluer. À l'heure actuelle, lorsque vous avez deux hommes ou deux femmes qui vivent ensemble, ils doivent absolument avoir les mêmes droits de se marier, de faire en sorte qu'ils ne soient pas inférieurs à des couples hétérosexuels. Et dans ce sens-là, le signal qui a été donné par une commission du Conseil des États est très très fort et je m'en réjouis. Pour en revenir après sur tous ces points-là, on vit avec notre temps et je crois qu'il est bien de s'adapter. On dit toujours que les politiques sont en décalage avec la population, avec les réalités. C'est une réalité. Ça s'est fait dans plusieurs pays européens. On voit que ça apporte que des bonnes solutions, une solution qui est maintenant, je dirais, nécessaire. Et je ne comprends pas qu'on puisse encore avoir une vision rétrograde comme celle de mon contradicteur tout à l'heure.
Claire Husard-Bessel, vous disiez tout à l'heure, le PPD, c'est un bon parti pour se profiler tantôt à droite, tantôt à gauche. Alors là, vous êtes plutôt d'accord avec Pierre Morand ou avec Jean-Pierre Doutin ?
Pierre Morand, en l'occurrence. J'estime que, d'autant plus que je suis une femme qui milite pour l'égalité, et quand on pense qu'il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants, ou, à contrario, peut-être des hommes qui élèvent seuls leurs enfants, pourquoi ne pas avoir, à ce moment-là, des partenariats, des mariages dans toutes les directions ? Pour moi, c'est évident.
Nadine Gobé, une autre, peut-être, sensibilité féminine, ou en tout cas politique ?
Bon, je pense que la question du PACS, c'est tout d'abord une question personnelle. C'est vrai qu'au sein du PLR, on a une attitude plutôt libérale, donc a priori, on pourrait dire qu'on est favorable à cette proposition de PACS, qui est une façon de s'adapter à l'évolution de la société. Cela dit, d'une part, on a le partenariat enregistré pour les couples homosexuels. De l'autre côté, on a le mariage civil et ou religieux. Et puis, je vois ce PACS comme un contrat entre un homme et une femme, qui est un contrat un petit peu, une solution intermédiaire par rapport au mariage. Mais parallèlement, il ne faut quand même pas oublier que les couples hétérosexuels, aujourd'hui, peuvent faire un mariage civil sans passer par un mariage religieux. Donc, dans le PACS, respectivement, dans ce contrat proposé, il faudrait aussi voir ce qu'on prévoit, notamment en matière de succession, de droit de la famille ou respectivement de proches malades. Au sein du PLR, je sais que c'était un postulat d'Andrea Caroni dans le cadre de la révision du droit de la famille. Le PLR au niveau suisse ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Pour l'instant, je serai assez ouverte à cette solution, mais il faut voir de quoi on parle quand on parle d'un PAX dans ce contrat.
Et pour finir le tour, Pierre-André Page de l'UDC, vous êtes ouvert à la discussion sur ce sujet ?
Alors, l'UDC est toujours ouvert à discuter. Et je crois que nous avons une base à l'UDC. C'est une famille traditionnelle, un papa, une maman et les enfants. Et je crois que ça, c'est la base, c'est le pilier de l'économie de notre pays. Je crois qu'une famille équilibrée, c'est une famille qui fonctionne bien, c'est une famille qui est efficace, qui a des bonnes collaborations et qui grandit en même temps dans l'économie. Au niveau du partenariat enregistré, je crois que j'étais favorable pour les couples homosexuels. Mais maintenant, on arrive avec le mariage pour les homosexuels. Et là, je ne peux pas accepter cette différence. Donc moi, je suis tout à fait favorable au partenariat pour les couples homosexuels, mais pas du tout pour le mariage et non plus pour l'adoption. Je crois qu'on a vu l'équilibre dans les familles avec les enfants. C'est vraiment sain d'avoir un papa et une maman. Et c'est plus difficile avec les couples homosexuels. Je suis tout à fait convaincu, je comprends très bien qu'il y a une évolution de la société, je comprends qu'il y a des familles, des hommes célibataires, des femmes célibataires qui ont des enfants, mais pour le mariage, ça doit rester pour un homme et une femme.
Jean-Pierre Doutin, candidat du PDC, vous souhaitez réagir ?
Oui, je voulais surtout réagir au terme de M. Mouron qui parle de progrès et de rétrograde. Écoutez, si perdre les valeurs fondamentales de la vie et des êtres humains, c'est être rétrograde, ben, ça me fait rien d'être un parti rétrograde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le PDC est ouvert à toutes les formes de vie que l'on a envie de mettre et d'accepter légalement. Mais il y a tout de même, excusez-moi, Monsieur Mouron, mais il y a quand tout de même des bases, je dirais, de l'être humain qui font que, aujourd'hui, de mettre tout dans un même panier et de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut y aller, c'est le progrès, c'est un peu aussi rétrograde de penser ça. Merci.
Monsieur Mouron, vous voulez peut-être répondre quelque chose ?
Oui, on voit très bien à travers ces discours-là la distance qui est entre certains partis. Vous avez d'un côté le PDC et l'UDC qui ont des valeurs conservatrices très très fortes, puis d'un autre côté le PS et là le PLR et le PBD qui sont plutôt pour une société progressiste. Pour ma part, quand j'entends la définition de Pierre-André Page de la famille, où il manquait plus que finalement que de conseiller à la femme de rester à la maison, je ne partage pas ces valeurs-là. Et je dois dire que je suis pour le progrès dans ces domaines-là, où chacun a une identité propre, où un homosexuel ne vaut pas moins qu'un autre être humain, doit avoir absolument les mêmes droits que les autres. Et j'espère bien qu'on y arrivera, en tout cas que le Parlement soit favorable à ceci. Et je suis content que le PLR ait lancé justement cette idée.
Monsieur Page, vous avez envie de réagir.
Oui, j'ai envie de réagir au propos de Monsieur Mouron, qui dit que je suis rétrograde. Mais je crois que je l'ai dit, je crois qu'il n'a pas écouté tous mes propos. Il prend les phrases qu'il a envie de prendre pour répondre. Je crois qu'on est ouvert, on est conscient que la société évolue. Il y a des couples qui sont divorcés, qui sont remariés, qui refondent de nouvelles familles. Mais ça n'a rien à voir avec la femme qui doit rester à la maison. Je crois que même dans l'agriculture, les femmes ne peuvent plus rester à la maison. Elles doivent aller travailler à l'extérieur. Et puis pour une petite boutade, on se rend compte, même aujourd'hui, les paysans, on devrait presque avoir deux femmes pour pouvoir tourner dans nos exploitations, pour avoir deux salaires qui arrivent supplémentaires. Donc vous voyez qu'on n'est pas rétrograde, on est vraiment à l'avant-garde.
Peut-être l'avis encore de mesdames là-dessus, sur les propos que vient de tenir le candidat de l'UDC, Monsieur Page.
Alors vous pensez bien que je ne suis pas favorable à la position de la femme à la maison. Après, j'apprends que Monsieur Page est peut-être favorable à la polygamie. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Vous savez tous que le rôle de la femme dans l'économie est essentiel. Donc on a besoin des femmes dans l'économie. Il y a plus de 2 millions de femmes qui sont actives. Ça correspond à 45% de la population, souvent à temps partiel. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé le 9 février 2014, on en aura encore plus besoin des femmes dans les milieux économiques.
Bon, je crois qu'on l'aura compris avec ce premier tour, ce premier sujet, il y a un petit peu deux visions. Alors on les appelle comme on veut, hein, progressiste ou rétrograde, ça c'est les mots de M. Mouron. On comprend bien la question est de savoir si on adapte la loi à la société d'aujourd'hui ou non. Alors, on essaye aussi de le faire. Certains veulent le faire dans d'autres domaines, en dépassant le cliché qui veut que maman reste à la maison. Vous voyez, je l'ai écrit comme ça sur ma feuille, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Pendant que papa travaille, un cliché qui se ressentirait aussi à travers la question du congé parental.
Ouais, justement, toute la question donc, du possible congé paternité. Actuellement, le code des obligations prévoit 14 semaines pour la mère et rien pour le père qui, en principe, dispose d'un jour, voire de 5 à 10 dans certaines entreprises et certains services publics. Alors la question, elle est simple, faut-il généraliser un congé paternité? Et là, je vois que Claire Uzer-Bossel du PPD, vous êtes particulièrement pressée de répondre parce que vous avez, j'imagine, un avis tout fait sur la question.
Absolument, absolument. Et pour moi, le congé paternité est absolument essentiel. Il est essentiel, pas seulement dans les faits, mais dans l'évolution de la conscience des hommes spécialement. Pour qu'ils se rendent compte que finalement, ce métier de parent, il se commence dès le départ. Et en faisant évoluer les mentalités, en permettant à l'homme d'exercer le plus beau métier du monde, d'être parent, même si nos formations nous poussent à travailler ailleurs que uniquement à la maison, absolument, c'est un point essentiel qui, avec l'évolution des mentalités, permettra aux hommes de mieux accepter un temps partiel dans leur propre travail, comme les femmes qui aiment faire des temps partiels pour avoir les deux choses, mais que ce temps partiel ne soit pas uniquement là pour les femmes, qu'il le soit aussi pour les hommes. Ainsi, le partage des tâches intervient plus facilement au sein des familles. Le partage professionnel, l'égalité homme-femme, qui n'est pas au niveau salaire, on est d'accord, mais ça c'est un autre problème, mais l'égalité homme-femme le sera aussi au sein des familles et au sein professionnel, et permettra à toutes ces femmes dont a parlé Nadine Gobet tout à l'heure au niveau de l'économie, d'entrer sur le marché de l'économie. Et pas d'entrer par la petite porte, mais d'entrer par la grande porte pour pouvoir aller dans des postes cadres aussi, pour créer des binômes, femme-femme, homme-homme, homme-femme, etc. dans ces postes-là. Mais pour ce congé paternité, pour qu'il soit vraiment essentiel, il ne faut pas seulement se contenter de ça. Il faut aller plus loin, après, avec l'accueil, avec les crèches, enfin, avec tout ce qui suit, pour que effectivement, ce ne soit pas seulement un congé de 10 jours pour le plaisir, pour pouponner, mais non, que les mentalités changent et que dans l'économie, dans le travail, les temps partiels se fassent des deux côtés, les tâches se fassent des deux côtés et que ce partenariat entre hommes et femmes, mariage ou pas mariage, soit vraiment existant.
Le congé paternité du côté du PLR, Nadine Gobet.
Alors, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'un congé paternité, en tout cas, ce qui est discuté actuellement, on parle de 15 jours. Donc, c'est 15 jours de vacances. On
le syndicat de travail suisse, on le signale au passage, réclame 20 jours. Vous,
voilà.
Qu'est-ce que
alors,
vous
15 ou 20 jours, pour moi, c'est plutôt le principe en tant que tel qui devrait être débattu. On ne parle évidemment pas de la possibilité pour un papa de prendre ses responsabilités dans le suivi, la formation et l'éducation de l'enfant, respectivement d'un éventuel temps partiel dans son entreprise. Pour moi, on n'est pas dans la même situation que le congé maternité qui, lui, est, à mon avis, se justifie pour un lien physiologique. D'ailleurs, dans la loi sur le travail, c'est interdit aux femmes de travailler durant les 8 semaines qui suivent l'accouchement. Pour moi, ça, c'est pas pour rien. Après, je ne serais pas opposée sur le principe, mais pour autant qu'il ne vienne pas une obligation pour toutes les entreprises avec un minimum pour tout le monde. Il faut laisser aux entreprises le choix de s'organiser. J'estime que le congé paternité, ça ne doit pas être une obligation. C'est aussi le libre choix du papa, parce qu'il y a aussi dans le droit des vacances et la paternité, c'est aussi prévisible à l'avance. Il y a actuellement un certain nombre d'entreprises qui accordent ce droit, mais là on veut vraiment une nouvelle réglementation pour uniformiser et mettre sous pression les entreprises, et qui sera embêté avec cette nouvelle disposition, c'est les petites entreprises, celles qui ont moins de moyens, parce que un certain nombre d'entreprises d'une certaine importance ont mis en place ce congé paternité. Et puis après, si vous avez quelqu'un qui est absent, il faudra aussi le remplacer, et ce n'est pas toujours évident. Et j'aimerais terminer pour dire que ça a quand même un coût. On dit qu'on va prendre ça sur les APG, mais j'aimerais rappeler que le taux des APG, il est monté de 0,3 à 0,5% pour 5 ans, donc de 2011, comme par hasard, à fin 2015. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises préféreraient qu'on revienne au taux d'APG de 0,3% plutôt que de le maintenir à 0,5%.
Taux qui redescend en fait à 0,45% pour les 5 prochaines années à partir de l'année prochaine. Peut-être petite précision.
Pierre Mouron, d'accord avec Nadine Gobet. On laisse la liberté aux entreprises dans le domaine du congé paternité.
Alors, dans un sens, oui, et avec Mme Cléruzel-Boissel aussi, je crois que dans ce pays maintenant, les pères en ont marre d'attendre. Je crois que ça fait assez longtemps qu'ils attendent, ils ne sont pas moins capables d'éduquer un enfant, et je crois que c'est aussi pour le bien-être non seulement des enfants, mais aussi des mamans. Il y a des évolutions qui sont intervenues dans ce domaine-là, notamment avec l'autorité parentale conjointe, et je l'espère bientôt également, l'obligation d'une garde alternée de principe, sauf en cas de problème. On a vu trop souvent des cas où l'un des deux parents était, en guillemets, privé de son enfant. Il faut voir l'inverse, l'enfant privé de l'un des deux parents. Et ça commence dès la naissance. Pour ceux et celles et ceux qui ont eu la chance d'avoir ou de pouvoir bénéficier d'un congé paternité, ils se rendent compte de l'importance. Et je crois également que l'évolution de la société le commande à l'heure actuelle. Il faut juste que le politique s'adapte à la réalité pour permettre cela de la meilleure manière qui soit. Deux semaines ou trois semaines, ça n'est à mon avis qu'un début. Et on verra que pour le bien-être des familles, des enfants et des parents, ça paraît évident qu'on doit aller dans ce sens-là.
Pierre-André Page, l'agriculteur, le candidat UDC que vous représentez, votre position sur le congé paternité ?
Alors, ma position est là, c'est clair. Je crois que je suis assez favorable au partage des tâches dans les couples, mais là, avec ce congé paternité, on va beaucoup trop loin. On parle déjà de deux semaines, on parle de 15 jours. Je crois que quelques jours, je pourrais entrer en matière. On est ouvert à discuter. Je pourrais entrer en matière pour 3-4 jours, mais là, on va vraiment trop loin. On ne peut pas... On doit garder une certaine responsabilité individuelle dans les familles afin qu'il y ait vraiment une base sûre. L'État ne doit pas se substituer à la famille. Quand je vous entends, Madame Ouzer et Monsieur Mouron, l'État devrait tout donner. Hein. On fait des enfants, on les met à la crèche, on les met là, on s'en occupe plus, c'est tout l'État qui prend charge. Et ça, je crois que ça va trop loin. Pensez aux entreprises, mesdames et messieurs. Les entreprises qui doivent payer ce congé paternité. L'État va le payer, ça sera facile. Hein. L'État fait tout. Mais les petites entreprises, demandez à M. Douta ce qu'il en pense, je ne sais pas, mais j'imagine que ça va être un coût trop important pour nos entreprises. Ils ont eu le problème du Francfort, on veut leur mettre un congé paternité. Comment vont-elles tourner, ces entreprises ?
On va effectivement demander au chef d'entreprise, candidat du PDC, Jean-Pierre Douta.
Oui, merci de me passer la parole. Écoutez, moi j'aurais une position extrêmement centriste et PDC, et je suis fier de la tenir. Je suis chef d'entreprise, je pourrais tenir le langage de M. Page ou de Mme Gobet. Je rappelle que s'il n'est pas inscrit dans la Constitution ces jours de congé paternité, bon nombre de conventions collectives octroient des jours à la naissance d'un enfant. Est-ce qu'on peut l'appeler congé paternité ? Je vous laisse penser. Personnellement, je suis favorable à un congé paternité. Pourquoi ? C'est vrai qu'au niveau entreprise, on pourrait dire, mais dans une pipe, ça va nous faire des coups. Mais écoutez voir, quand on a en Suisse, combien c'est la moyenne d'enfants par ménage ? 1,8, 1, donc...
En dessous de 2, en tout cas, oui.
Une ou deux fois dans la vie d'un homme, on lui donnerait 15 jours de congé paternité. Moi, je m'engage à le mettre en place et à chercher les solutions pour le financer, car même une petite entreprise comme la mienne, je serais même en tant que patron fier de pouvoir laisser à mon employé quelque temps à passer avec son enfant qui arrive. Et je dirais même que ce congé paternité devrait pouvoir s'amoder peut-être sur la première année de vie de cet enfant, pas nécessairement au tout début, où il devrait pouvoir être mis à disposition du papa pour bénéficier de cette chose extraordinaire qu'est la naissance d'un enfant. Et c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais pour 1,8 fois par année dans la vie d'une personne, je pense que l'économie peut trouver une solution. On en trouve pour des choses beaucoup plus compliquées.
La candidate du PBD, Claire Ouzer-Boissel, qui souhaitait revenir, j'imagine, suite à la pique lancée tout à l'heure par...
Oui,
par Pierre-André Page.
Tout à fait, par mes deux personnages de gauche. En fait, ce sont des économies...
Droite politiquement, on va le
voilà,
on va
droite
le,
politique, le tout à fait. Ce sont en fait des économies à court terme. Et je crois qu'il faut arrêter dans ce pays de voir les solutions à court terme. Il faut voir beaucoup plus loin. Et pour moi, un congé paternité fait vraiment sens dans la tête des hommes dans la tête des femmes, dans la tête des couples, dans la tête des parents à long terme. Et c'est ça qui permet d'évoluer et d'aller plus loin. Et des économies uniquement à court terme, moi ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux voir le long terme et je suis contente d'avoir entendu mon PDC à ma droite, mais qui est à ma gauche peut-être sur le papier.
Comme il est 19h28 et que le temps tourne, Nadine Gobet, très brièvement s'il vous plaît.
Comme M. Douta l'a relevé, il y a un certain nombre de conventions collectives qui n'ont pas attendu le Conseil fédéral pour mettre en place ce système. Je pense qu'il doit rester à la libre volonté de chacun. Et ce n'est pas 15 jours de vacances qui vont changer la situation et une meilleure conciliation de la vie privée et professionnelle, et y compris pour les hommes. Parce que pour moi, les structures d'accueil sont beaucoup plus importantes que ces 15 jours de vacances.
Fin de ce chapitre politique familiale dans cette soirée Radio Tour électorale ici au bureau à Bulle. Vous avez encore une demi-heure pour nous rejoindre jusqu'à 20h ici. On va passer à une partie un petit peu plus ludique, Jérôme. On l'avait déjà fait la semaine dernière dans la Broye à QJ. On va vous lire des citations de personnages politiques. Et vous devrez compléter ces citations puisqu'il manquera un mot, vous allez l'entendre, et donc la compléter avec le mot de votre choix, peut-être que ce sera le même que l'auteur original avait choisi.
Et on va commencer avec vous, Claire Uzerbessel, la candidate du PBD. Alors vous, il vous manque trois mots, vous avez droit à une spécialité, carrément ce sera une expression. C'est une citation de Václav Havel, figure de l'opposition anticommuniste en Tchécoslovaquie, premier président de la République tchèque entre autres, qui dit ceci: « La politique est simplement le... »
Joker.
Ah, tout de suite, vous passez au joker. Alors, donc c'est une mauvaise réponse, comme nous le signale la technique. La politique est simplement le service du prochain, disait Václav Havel. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là?
Alors, je pense que c'est en grande partie ça, le service du prochain. Et si moi, à mon âge, je me suis engagée en politique, c'est bien pour me mettre au service des jeunes. Parce que si notre Suisse évolue où elle évolue maintenant et où la vie n'est pas facile pour les jeunes de 20 ans, eh bien j'en suis responsable. Je suis co-responsable et maintenant si je suis en politique, c'est pour assumer ma responsabilité. Et c'est effectivement pour me mettre au service des jeunes que je suis là.
À votre tour, Jean-Pierre Douta, candidat du PDC. Une citation de Jean Jaurès, le grand homme d'État français, socialiste et pacifiste du début du XXe siècle. Alors, pas le droit de demander les réponses à Pierre Moron. Je vous lis la citation. L'État social favorise et augmente
la qualité de vie.
On n'est pas très loin. La liberté.
Ah, la liberté.
D'accord avec cette citation, l'État social favorise et augmente la liberté.
Partiellement d'accord, dans la mesure où, avec un peu de social, on peut augmenter la liberté de certains, qui est tout de même conditionnée par l'État social. Mais pour les plus démunis et les autres, je pense que ça peut être, je dirais, une vision que je peux accepter.
Nadine Gobet, candidate libérale radicale. Alors, on a choisi pour vous une citation de Victor Hugo, écrivain français, 19e siècle. Alors, tout ce qui augmente la liberté augmente...
Tout ce qui augmente la liberté augmente.
Un joker augmente aussi. La responsabilité.
Exactement, augmente la responsabilité. C'est la citation de Victor Hugo. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Oui ? Non ?
Oui. Ça correspond à la vision du Parti libéral radical, liberté, responsabilité.
Et donc à la vôtre ?
Tout à fait.
Pierre-André Page, candidat de l'UDC, une citation du philosophe et médecin français Albert Schweitzer. Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa...
Non, qui a perdu sa...
C'est un jeu difficile, il faut l'admettre.
On a vu que c'est un jeu difficile, oui. Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-André Page ?
Écoutez, c'est difficile à répondre à cette question, parce que le patriotisme, c'est vrai que c'est une noblesse, mais comment est-ce qu'on traduit le nationalisme ? Je donne ma langue au chat.
Une chose ambiguë, ou en tout cas délicate à saisir. On verra avec vous Pierre Moron du Parti Socialiste. Vous avez plus de chance avec cette citation de James Freeman Clark, qui est peut-être le moins connu de nos cités de ce soir, qui est un théologien et auteur américain du 19e siècle. Il a dit ceci: un politicien pense à la prochaine élection, un homme d'État à la prochaine...
à la prochaine génération, je dirais.
Exactement. Alors, c'est la deuxième réponse juste ce soir. Un politicien pense à la prochaine élection, un homme d'État à la prochaine génération. Alors, vous, Pierre Morand, vous pensez à la prochaine élection ou à la prochaine génération ?
Uniquement à la prochaine génération. Ce qui m'a fait m'engager en politique, c'est justement pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir un État social fort pour que chacune et chacun puisse se développer dans le souci non seulement de bien-être, mais du mieux commun. L'idée n'est pas de tout interdire, mais quand je vois le début du débat aujourd'hui, où on a frontalement des partis et des visions de société qui s'opposent, d'un côté les partis de droite, notamment l'UDC, représenté par M. Page ici, et les visions que nous défendons, je dirais depuis le centre, centre-droit jusqu'à la gauche, ça me donne encore plus de conviction pour y aller, franchement.
En tout cas, il est évident qu'on arrivera à vous situer sans peine dans l'échiquier, dans la salle du Parlement fédéral, si on doit déjà vous disposer selon les idées qui ont été exprimées jusqu'à maintenant. On notera surtout qu'on a eu deux réponses justes ce soir, donc vous battez largement les candidats broyards qui n'en avaient trouvé aucune de ces bonnes réponses. Et puis on va faire une toute petite pause, on va respirer, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat.
Au revoir les bonnes affaires. C'est le moment de nous abandonner. Alors que vous êtes encore tellement bon marché.
MediaMarkt se sépare de ses meilleures offres. Téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones et beaucoup plus. Liquidation obligatoire avec des réductions radicales. T'es maintenant chez MediaMarkt.
Radio FR présente les bonnes tables de la région. Connaissez-vous le café des Préalpes à Villars-sur-Glâne? Non? Alors il est temps de découvrir cet espace idéal pour tous vos banquets, réunions et apéritifs allant de 10 à 250 places.
Sur demande, et pour vos soirées en toute intimité des 15 personnes, il vous ouvre ses portes même le soir.
C'est unique, non? Souplesse, un service soigné et un fumoir abrité. Le café des Préalpes à Villars-sur-Glâne, c'est la route des Préalpes 18 sur la ligne des TPF 5, Villars-Sud.
Vous recherchez un endroit trendy en ville de Fribourg? Moi, je vous suggère l'Alphabet. Du lundi au vendredi, vous pouvez savourer une cuisine de saison. Plat du jour, business lunch et un service à la carte. L'Alphabet vous accueille très volontiers les week-ends, sur demande ou pour vos sorties de groupe. J'oubliais, l'Alphabet est le restaurant de l'hôtel Alpha à Pérol, Fribourg.
Radio Fribourg à Charmey sur 95 FM. Radio Fribourg, spéciale élection fédérale.
Et nous sommes toujours en direct du bureau à Bulle pour ce deuxième débat avec des candidats au Conseil national pour les élections fédérales qui se dérouleront le 18 octobre. Nos candidats de ce soir sont Jean-Pierre Doutat du PDC, Nadine Gobet du PLR, Claire Uzère-Bossel du PBD, Pierre Morand du PS et Pierre-André Page de l'UDC. Nous allons aborder un deuxième thème. Nous allons parler, si vous le voulez bien, d'économie, mais d'économie et de tourisme. Le tourisme représente 5% des recettes d'exportation suisse et il doit composer avec la crise du Francfort depuis de nombreux mois et en particulier, bien sûr, depuis l'abandon du taux plancher par la Banque Nationale Suisse en janvier de cette année. La principale difficulté pour le tourisme, eh bien, c'est que les trois quarts de ses clients étrangers sont européens et à un euro à moins d'un franc 13, c'était le cas en début de journée, ne l'arrange pas forcément. D'ailleurs, si on constate que les nuitées ont globalement augmenté, les nuitées hôtelière en juillet de cette année par rapport à juillet 2014, on constate que celle des visiteurs allemands, moins de 150 000, britanniques ou français, moins 50 000, italiens, néerlandais et belges, notamment, ont diminué.
Alors voilà pour le cadre, pour les statistiques, mais qu'en est-il concrètement ? Eh bien, on a ce soir un spécialiste qui vient nous faire part de ses préoccupations. Il s'agit de Stéphane Schleppi, le directeur de l'hôtel Caillé à Charmey, directeur également d'autres établissements liés au tourisme dans le canton de Fribourg et ailleurs en Suisse. Bonsoir, monsieur Schleppi.
Oui, bonsoir. Merci de m'avoir convié à ce débat ce soir.
Alors, la question qu'on va vous poser, elle est simple. Qu'est-ce que vous attendez de ces éventuels futurs parlementaires à Berne pour défendre le tourisme?
Alors tout d'abord, je souhaite saluer tous les candidats qui sont ici présents ce soir. Écoutez, vous avez raison de parler des difficultés de l'activité touristique actuellement. C'est vrai que le Francfort a vraiment plombé l'activité à partir, je dirais peut-être pas tout de suite en janvier, mais à partir de mars de cette année. Et il nous faut trouver des solutions pour maintenir nos qualités de prestations et nos activités. On s'aperçoit en fait que le politique a du mal à influencer sur le taux plancher. Dès lors, il me semble que leur seule possibilité de nous aider est de travailler sur les conditions cadres. Donc ma question est simple, allez-vous défendre des conditions cadres spécifiques à la branche touristique, voire en proposer de nouvelles ?
Alors on peut commencer par Pierre-André Page, candidat de l'UDC. Qu'est-ce que vous allez faire pour le tourisme et pour les conditions cadres du tourisme? C'est ce que vous demande Monsieur Schleppi.
Il faut peut-être se rappeler en préambule que le problème du Francfort, c'est un problème de l'euro faible surtout. Il y a l'euro qui était fixé après la crise du Francfort, il y a eu une perte de 15%. Maintenant, on voit qu'il est remonté un peu vers un 10. Donc, on voit que l'économie rattrape un peu. C'est vrai qu'on a eu le problème du tourisme. Comment expliquer? Je pense que le problème du tourisme est un problème beaucoup plus global que régional. On doit aussi s'habituer en Suisse à travailler avec les pays lointains. C'est vrai qu'au niveau européen, il y a ce problème du franc. Mais les pays lointains qui viennent, ils viennent à Gruyère, ils font une escale peut-être à Amsterdam, à Londres, et ensuite ils partent. Donc je souhaiterais que les structures de touristes, les offices de tourisme se mettent plus ensemble pour travailler ensemble, pour récolter ces touristes qui viennent des pays lointains. Parce que c'est vrai qu'ici, chacun se bat pour son prix carré, mais on ne regarde pas suffisamment loin pour attirer ces grands tours opérateurs. Et c'est ceci mon souci. Le Francfort, on se rend compte, j'ai accompagné des Brésiliens il y a 15 jours. Ils sont allés à Amsterdam, à Londres. Ils sont venus ici à Gruyère parce qu'on les connaissait. Ils sont allés à Mora. Ensuite, ils sont partis à Munich. Et ensuite, ils rentraient. Donc finalement, c'est ces gens. Ils ne vont pas faire Gruyère, Mora, Châtel-Saint-Denis, les Pacos. Ils vont s'arrêter à une place. Et je crois que c'est important que tout le secteur tourisme travaille ensemble pour prendre ces gens qui viennent de l'étranger. Parce que j'ai mon souci... C'est que tout à coup, ces grands tours opérateurs, ils disent « Mais les Autrichiens sont plus accueillants, ils sont meilleurs marchés. » Donc on ne s'arrête plus en Suisse. L'Europe, on arrête directement vers l'Autriche. Donc là, il faut aussi que la branche travaille ensemble pour que tout le monde tire à la même corde pour prendre ces gens chez nous.
Alors, on note une première solution, donc c'est une espèce de collaboration et puis de séduire des touristes qui viennent de plus loin, peut-être. Nadine Gobet, vous vouliez réagir et proposer votre solution pour aider M. Schleppi et la branche du tourisme?
Alors, comme le dit M. Schleppi, pour l'instant, les baisses de nuitées sont vraiment pas significatives, et fort heureusement. Mais on n'a qu'à attendre. Je pense que sur 2016, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Mais la situation à mi-2015 en termes de nuitées, elle est quelque part correcte, même si en Valais, je crois qu'ils ont souffert et il y a une baisse générale de 5%. Il faut quand même savoir que le tourisme, c'est 40 millions de recettes et ça emploie 210 000 personnes. Donc c'est une branche économique importante qui est impactée par la suppression du taux plancher, mais comme d'autres entreprises en Suisse qui sont aussi impactées avec les conséquences que l'on connaît du Francfort. Donc par rapport au tourisme, on a une certaine chance d'avoir du tourisme indigène, notamment dans notre canton, ce qui fait notre force. Et il y a le tourisme asiatique et des pays du Golfe qui est en augmentation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à la branche touristique? Tout d'abord, il y a la promotion et le marketing où Swiss Tourisme fait un très très bon travail. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été donnés ces dernières années. Il y a passé 230 millions pour le marketing et la promotion. À côté de ça, peut-être qu'il faut au niveau des crédits hôteliers, c'est-à-dire des prêts à taux préférentiel, être un peu plus large. Il y a la nouvelle politique régionale qui vient aussi en aide si on arrive avec des projets de forte plus-value. Donc c'est aussi une mesure. Il y a les notions peut-être de chômage partiel, on l'applique dans l'industrie, donc le chômage technique quelque part pourrait concerner la branche hôtelière, comme on l'a vu qui est une branche économique très très importante. Et puis il y a quelques mesures, notamment pour favoriser le sport d'hiver et le tourisme d'hiver. On se rend compte qu'il faut que les gens aient le réflexe notamment de skier l'hiver si on veut que nos stations continuent de pouvoir jouer sur un tourisme d'hiver, que ce soit dans notre canton, mais aussi en Valais ou dans les Grisons. Et à ce titre-là, il y a quelques mesures d'incitation pour organiser des camps d'hiver pour les enfants en âge de scolarité. Donc on voit, c'est une palette de mesures. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place Et puis, il faut soutenir les dites mesures.
Et donc vous, Nadine Gobet, si vous êtes élue, vous voterez absolument pour toutes les mesures liées à la palette que vous nous présentez là ?
Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir voter toutes les mesures qui sont proposées ici, mais il y a un certain nombre de mesures. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. Le tourisme est une activité économique importante, c'est indéniable. À côté de cela, il y a d'autres secteurs économiques qui sont touchés par le Francfort. Donc, si chacun vient avec sa demande, et des demandes en termes de financement, on ne va pas pouvoir soutenir tout le monde.
Pierre Mauron, le représentant ce soir, est le candidat du Parti Socialiste. Votre position ?
Oui, peut-être pour rebondir sur tous les secteurs qui sont touchés par le Francfort, il faut se rappeler que lorsque la BNS a fixé la parité du franc suisse avec l'euro, ça n'était pas une nouveauté. Elle l'avait déjà fait depuis 1979 avec le Deutsche Mark et ça avait duré à peu près 20 ans. Ça a été un succès et lorsqu'elle l'a refait avec l'euro, eh bien, on a vu que ça a aussi tenu une bonne partie des secteurs concernés à flot. Le tourisme, lui, est parfaitement lié à cela. Et dans ce sens-là, à mon avis, il faudrait à nouveau que la BNS lie l'euro au franc, peut-être à une valeur un peu plus basse, que ce soit 1,10, 1,15. Et le politique, le Parlement fédéral et le Conseil fédéral peuvent mettre la pression à ce sujet, même si à la fin, c'est la BNS qui discute.
Maintenant, ça, c'est intéressant parce qu'on l'entend parfois, mais concrètement, est-ce que vraiment on peut, comme ça, faire pression sur la Banque nationale qui est a priori indépendante ?
De mon point de vue, si le Conseil fédéral et le Parlement fédéral le demandent, je pense que la BNS réfléchira à deux fois avant d'éventuellement le refuser. Maintenant, par rapport au tourisme proprement dit, ce qu'on voit ici, alors plus particulièrement dans le canton de Fribourg, pour répondre à la question de M. Schleppi, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'hôtellerie notamment. On voit que le tourisme d'un jour n'apporte pas grand-chose à l'économie locale. La personne qui vient alors de Chine ou d'ailleurs pour visiter en un jour la maison Caillé à Bro et le château de Gruyère, puis repart le soir, n'apporte beaucoup moins à l'économie locale que si cette même personne avait le choix, par une mise en réseau, comme cela a été dit avant, de dormir une fois à Bulle, une fois à Gruyère, une autre fois encore à Charmey, et finalement visiter aussi notre région un peu plus longtemps qu'un seul jour. Il y a des belles choses qui ont été faites. Le château de Gruyère est le deuxième site le plus visité de Suisse. La maison Caillé est maintenant un franc succès. Comment faire pour garder ces touristes ici plus longtemps ? Et dans ce sens-là, les crédits qui ont été alloués au fonds d'infrastructure pour l'hôtellerie par le Parlement fédéral dernièrement est une très bonne chose. On revient toujours à ces infrastructures. La première, c'est l'hôtellerie, c'est les lits à disposition. La deuxième, c'est la question du transport. Il faut pouvoir visiter ces sites, que ce soit en train, en vélo, en bus, mais par une offre plus développée. Et là, le politique peut agir. Et ensuite, c'est aux sites concernés, que ce soit le Molaison, la maison Caillé, Charmey, de faire en sorte que sur place, l'accueil soit chaleureux et qu'on puisse garder ces touristes, puisque c'est très important pour la région et pour toute la Suisse.
Jean-Pierre Doutard, candidat du PDC, vous en avez déjà vu, vous, des touristes, hein, durant votre carrière.
Oui, naturellement. Et,
positions donc là-dessus, sur ce sujet.
Je suis moi-même parfois touriste aussi en Suisse. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le franc suisse a toujours été une monnaie forte, refuge qui a en général plutôt bien profité à notre pays jusqu'à présent. La décision naturellement abrupte de la BNS du mois de janvier dernier, dans un monde de plus en plus globalisé, y compris dans le tourisme naturellement, a fait un électrochoc assez difficile à accepter. Pour revenir au tourisme, je crois qu'on doit intervenir aussi, naturellement, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Gobet, je suis 100% d'accord avec elle, mais on doit aussi intervenir dans moins d'intervention étatique dans le tourisme, au niveau de tout ce qui est administratif, tout ce qui est peut-être, ce que je parlerai de la paperasserie, il faut qu'on déréglemente en partie, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, et pas seulement le tourisme, pour laisser les gens, les professionnels, mettre leur énergie dans leur travail, dans leur mission.
Ça veut dire que là, vous avez quand même un côté libéral radical.
Mais c'est parce que je suis un parti du centre. Au centre, on cherche des solutions. Au change, on cherche... La solution, elle n'est pas qu'à gauche, qu'à droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que 80% des propositions PDC dans les chambres fédérales passent. Parce que si certains se font un malin plaisir de dire que le PDC, c'est la LOM, c'est parce que ça les gêne de dire que les décisions ou les propositions d'un parti centriste sont les seules qui peuvent trouver et chercher un consensus qui sert à tout le monde. J'ai reçu l'autre jour, pour ceux qui auraient participé au sommet du Molaison, il y avait une rencontre au sommet, et il y avait un hôtelier restaurateur de Verbier qui a 6 établissements à Verbier et qui a parlé du Francfort. Et il disait, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous parce que Bon, et il a aussi dit que c'est surtout la zone euro qui est naturellement concernée par ce franc fort. Et on va quand même pas négliger que la zone euro, elle est tout autour de la Suisse. Donc c'est après les Suisses, les premiers clients que nous devons aller chercher. Mais lui disait, mais écoutez, il a parlé de cette déréglementation, il a parlé d'une aide peut-être aux structures, aux investissements, comme il a déjà été dit, je ne vais pas me répéter. Mais il y a aussi, dans toute crise, il y a une objectivité que les entreprises, dont je suis aussi entrepreneur, on n'a pas le choix, c'est trouver des solutions. Ça veut dire qu'on doit diminuer les charges le plus possible. On doit être drastique dans la politique d'achat. Malheureusement, c'est tout ça qui fait qu'on va gagner quelques petits deniers ici ou là, qui sont aussi indispensables. Et ceci, c'est le progrès aussi. Ça fait partie de progresser dans un domaine d'activité et d'être encore meilleur. Surtout, ne pas baisser les prestations. Ce serait grave, il disait, ce monsieur, et un des grands problèmes qu'on a, c'est notre communication aussi. Il estimait qu'il y a un challenge ici qui doit être fait, non seulement par les particuliers qui sont dans l'hôtellerie et dans ce domaine, mais par les associations, comme il a été dit par Madame Gobert, les associations régionales, il doit avoir une coordination et on doit dire qu'on est bon, qu'on est meilleur et on doit essayer de former les gens, qu'ils soient. Il prenait l'exemple de la personne qui accueille les gens ou la personne à Verbier qui transporte les gens de l'hôtel jusqu'à les pistes de ski. Si cette personne-là n'a pas un accueil parfait, c'est celle peut-être qui est le plus avec le touriste. Donc, vous voyez, dans l'investissement à l'interne, je suis convaincu qu'ici en Gruyère, il se fait déjà énormément, et M. Schleppi est certainement un des must dans ce domaine-là. Mais par contre, on doit toujours améliorer, et je crois que attendre que sur les autres pour que ça aille mieux, on va pas passer.
Claire Uzer-Bossel, la candidate du PPD, on vous a pas encore entendu sur cette question du développement de notre tourisme face au Francfort.
Oui, merci. Alors moi, j'aimerais vraiment partager l'avis de Monsieur Douta concernant que toute crise permet aux personnes qui sont en plein dans cette crise d'avoir un esprit de challenge, un esprit d'ouverture, de faire parler l'innovation, de faire parler le courage et d'aller chercher des solutions qu'ils n'iraient pas chercher s'ils restent sur ses lauriers. Et finalement, tout ça descend. J'aimerais proposer une solution. Ça serait éventuellement de penser comment se passent les réservations. Les réservations se font énormément sur Booking. Et Booking, Trivago ou autre se sucrent passablement au passage. Pourquoi est-ce que dans le cadre cantonal et national, il n'y aurait pas une possibilité d'avoir un système suisse ? D'avoir un système suisse de réservation pour contrer Booking, pour contrer Trivago, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un réseau qui soit établi et qu'il y ait un taux de réservation qui soit plus bas sur un mode européen, peut-être. Pas seulement, et comme me disait M. Douta, ce sont des gens d'Europe qu'il faut attirer chez nous. Le tourisme de luxe des Émirats arabes ou les Chinois ou les Japonais, ils viennent. C'est pas eux qui mettent en crise le tourisme ici. C'est bel et bien le tourisme européen. Et c'est là qu'il faut aller chercher des solutions. Et moi, je crois que si les cadres touristiques se sentent en crise et se sentent en problème, eh bien, ils vont eux-mêmes chercher ces solutions-là. Pas dans l'État et dans l'aide. Et je serais pas tout à fait d'accord avec Monsieur Moron qui dit il faut que les gens y restent plus longtemps chez nous. Le Japonais, il veut voir le Cervin, il veut voir après à Munich, il veut aller à Paris, etc. Il veut pas rester 3 jours en Gruyère, même si c'est le plus beau pays de la Terre.
Alors ça, on Merci. Vous laissera partager cette affirmation avec de nombreuses personnes qui sont ici. Pierre-André Page, ça fait un moment que vous voulez réagir, on va vous donner la parole.
Oui, je vous remercie. Personnellement, ça ne me gêne pas que le PDC, M. Douta, slalom un peu, ça me conforte dans notre ligne bien à droite, je crois. Mais je voulais réagir aussi sur ce que vous avez dit, et là je suis parfaitement d'accord, on doit vraiment favoriser le tourisme suisse. Et là, M. Schleppi donne l'exemple avec Charmet qui s'est beaucoup développé, et là on attend aussi des hôteliers qui fassent vraiment un effort pour être meilleurs que les autres. Par contre, ce que je n'ai pas compris avec M. Moron qui nous a dit le débat tout à l'heure, qu'il voyait de l'avenir, qu'il allait de l'avant, et puis qu'il croit qu'il veut arrêter les grands tours, 3 jours, entre Gruyère, Charmet, et puis Pringy peut-être. Non, je crois que c'est vraiment irréaliste. Là, il faut avoir un minimum de connaissances du tourisme, parce qu'avec ces grands tours, ils font des tours, ils prennent une ville, même pas par pays en Europe. Je crois qu'il faut être réaliste. Là, c'est vraiment vraiment pas juste ce que vous avez dit.
Alors, l'heure avance très vite. Peut-être Monsieur Morand, rapidement, parce que vous avez été pris directement à partie. Ensuite, Madame Gobet.
Oui, c'est justement deux visions qui s'opposent. On peut être la tête dans le guidon et penser à ces gens qui viennent voir notre région en un jour, ou penser autrement et à la plus-value que cela peut nous apporter. Les gens sont là. Le deuxième site le plus visité de Suisse, c'est le château de Gruyère. Les gens sont là. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter à l'économie, à l'artisanat local? C'est justement en les faisant rester un ou deux jours de plus. Charmey, par exemple, avec les bains, ont réussi une belle opération qui amène plus de gens à Charmey, dont l'hôtel après de M. Schleppi en profite. La question de la maison du Gruyère également. En développant ces offres-là, on permet d'avoir non seulement le tourisme directement qui voit les choses pour lesquelles ils sont venus, mais qui en plus apporte du soutien à l'économie locale. Et dans ce sens-là, une fois que les gens sont sur place, s'ils ont des moyens de se déplacer correctement, avec une offre pour des nuits aussi correctes dans des établissements tout à fait corrects, je pense qu'on peut avoir encore une plus-value. Et c'est justement pour penser à ceci, à cette prochaine génération, que mon idée va dans ce sens-là.
Madame Gobet, avant qu'on demande à M. Schleppi s'il est satisfait quand même de vos réactions.
Je pense qu'il faut revoir les canaux d'information parce qu'on l'a dit, il faut communiquer les destinations. Et pour moi, on doit vraiment faire vendre une destination, vendre un rêve, vendre une histoire. Et c'est comme ça que des gens viendront dans le canton de Fribourg, mais en Suisse, et que nous aurons suffisamment de touristes. Parallèlement à ça, j'aimerais revenir sur la simplification des procédures. Je suis bien placée pour en parler. Je suis dans les remontées mécaniques fribourgeoises et ça. Si vous saviez comme c'est compliqué pour installer un télésiège à la Béra à cause des tétralyres, des canons à neige à Schwarzsee ou un télésiège à Molaison, avec toutes les procédures, les complications au niveau fédéral, cantonal, c'est dissuader les acteurs du tourisme d'investir. Et c'est malheureux. C'est vrai que M. Morand a dit... Il faut soutenir les infrastructures. Mais vous pouvez avoir les meilleures volontés du monde si on vous met les bâtons dans les roues quand vous voulez essayer de faire quelque chose. C'est vraiment dissuasif. Et ça, c'est très important qu'on revienne à une proportion un peu plus normale de ce côté-là.
La réaction donc de M. Schleppi. Vous avez entendu un bon panel là, de propositions, d'avis différents aussi, parfois politisés aussi sur la question du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Schleppi, directeur de l'hôtel Caillé à Charmey?
Oui, alors il y a eu des choses tout à fait justes de dites, des choses que j'étais heureux d'entendre, et il y a aussi eu deux, trois choses que j'estime pas justes, notamment par exemple au niveau des nuitées. C'est vrai que le marché européen a baissé de 10%, par contre pour les nouveaux marchés, la Chine, etc., c'est une augmentation de plus de 20%, le marché arabe c'est 240% d'augmentation, donc Suisse Tourisme et la Suisse travaillent déjà sur ces marchés. Hein. Une chose qui m'a fait très plaisir d'entendre, c'est la proposition de Nadine Gobet, c'est-à-dire de pouvoir accéder au chômage partiel. C'est vrai que ça pourrait nous permettre de résoudre plus facilement les problèmes saisonniers. Un sujet par contre que malheureusement j'ai pas entendu, et je vais l'aborder tout de suite avec les candidats, j'espère qu'on a le temps. C'est un sujet prioritaire pour l'hôtellerie, c'est le sujet de la TVA et du maintien de son taux favorable, le taux réduit qui est à 3,8%. Ce sera discuté dans la prochaine législature. Allez-vous défendre ce taux réduit qui est absolument nécessaire pour la profession?
Alors comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vous propose de répondre très simplement. C'est comme au Parlement, vous devez voter, c'est oui ou c'est non. Pierre-André Page.
Alors bien sûr que je vais défendre ce taux réduit. On l'a défendu aussi pour les cafés-restaurants. Malheureusement, ça avait été refusé en votation populaire. Mais là, je vais soutenir ce taux réduit.
Nadine Gobet, bouton rouge ou bouton vert?
Je voterai oui parce que je l'ai défendu aussi quand il a été question des cafés-restaurants.
Claire Husser-Bossel.
Je m'abstiendrai.
Pourquoi? Là, vous devez une explication.
Non, je ne suis pas assez au fait. Je ne suis pas assez au fait, donc je n'ai pas envie de dire oui ou non, alors que je ne suis pas au fait.
C'est donc une abstention de modestie, on peut dire.
Si vous voulez.
Jean-Pierre Doutin.
Moi, j'avais aussi voté oui quand il y a eu la votation, donc je ne vais pas changer mon fusil d'épaule, je défendrai l'économie.
Pierre Morand.
Il s'agissait, à mon avis, d'une bonne idée, mais qui constituait une mauvaise solution. A priori, d'après ce que j'ai entendu, ce serait plutôt non, parce que c'est d'autres moyens que je préconise, mais c'est un plutôt non, c'est pas un non catégorique, je tiens encore à avoir d'autres arguments à ce sujet-là.
On est très proche de la fin de ce débat, moins de 3 minutes, toujours ici hein, au bureau à Bulle. Encore une question sur laquelle on vous demandera une réponse, s'il vous plaît, synthétique. c'est de savoir si globalement les politiciens en font vraiment assez. Est-ce que l'État en fait vraiment assez sur cette question du tourisme? On sait par exemple que récemment, on a parlé de la création d'un parti du tourisme, hein, vous l'avez peut-être entendu. Votre opinion là-dessus, par exemple, Pierre-André Page?
C'est difficile à dire, je ne suis pas dans le milieu du tourisme, mais je crois qu'on n'en fait jamais assez pour une branche. Quand on veut défendre une branche, on doit faire le maximum. Alors j'imagine que les gens du tourisme trouvent que les politiciens n'en font pas assez. Et puis alors moi je m'engage beaucoup à soutenir, parce que le tourisme en Suisse, c'est quand même la base, une bonne base de notre économie.
Nadine Gobet.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le secteur touristique est important au niveau économique. Maintenant, je pense qu'il est, bien défendu à Berne, comme d'autres secteurs d'activité.
Madame Gobel-Huser.
Eh bien, pour moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire qu'ils se servent eux-mêmes. Qu'ils démarrent eux-mêmes dans leurs possibilités, dans leurs croyances, dans leur innovation, dans leur courage, et qu'ils ne comptent pas trop sur l'État. Même si, alors je suis 100% derrière toutes les mesures qui ont déjà été prises jusqu'à présent.
Le candidat du PDC, M. Douta.
Oui, écoutez, moi je pense que tout secteur économique d'importance mérite une attention particulière. À certains moments, ça peut être le tourisme, d'autres fois un autre. Mais cette attention ne doit pas venir que des politiques. Cette attention doit monter de la base, des gens qui exploitent, des gens qui sont des milieux touristiques, des associations touristiques. Et finalement, c'est un travail de lobbyiste qui doit être fait à bon escient, au bon moment, et envers les bonnes personnes aussi au Parlement, pour sensibiliser ceci. Et puis après, s'ils sont bons, ça doit suivre.
Pierre Mauron, vous avez parfois été minorisé dans la soirée. Il y a parfois eu du rapport gauche-droite classique, 1 contre 4. Vous aurez le mot de la fin, le rôle de l'État face au tourisme.
Le rôle de l'État constitue la moitié du chemin. Mettre à niveau les infrastructures, permettre aux hôteliers de fonctionner, permettre aux gens de se déplacer correctement dans les régions concernées, ça c'est vraiment le rôle de l'État qui facilite l'accès au tourisme. Et ensuite c'est le rôle des hôteliers, des gens qui s'occupent du tourisme, de mettre en avant leurs innovations, leurs idées, d'être créatifs. Parfois des balades à l'étranger nous rendent compte de ce qu'on peut faire ici en Suisse ou dans notre région plus précisément, et on compte aussi sur leur créativité. L'alliance des deux permet de trouver des solutions.
Et il est 19h59 sur Radio FR et aussi ici au bureau à Bulle. Nous sommes au terme de ce débat. Nous espérons très sincèrement que cette heure de discussion vous aura été utile à vous qui nous écoutez, qu'elle vous aura permis de faire un choix peut-être parmi les candidats en vue des élections du 18 octobre. Merci infiniment à vous d'avoir été à notre écoute, que ce soit chez vous, au travail ou ici au bureau à Bulle. Merci à notre invité Stéphane Schlepi qui distribuera les bons points tout à l'heure ou les suffrages. On verra comment il préfère procéder. Merci à vous, nos 5 candidats. Merci bien évidemment au bureau qui nous a accueillis, à la technique. Merci à vous, j'aime bien dire merci. Merci à vous, Julien Bangerter. Ça a été un plaisir d'animer ce débat avec vous. Ne manquez pas, bien sûr, le prochain rendez-vous électoral de Radio FR. Ce sera mercredi 30 octobre au sous-sol à Fribourg. Philippe Huvillère et Delphine Bulliard recevront les 6 candidats au Conseil des États cette fois. Ce sera à suivre en direct dès 19h. Et en attendant, eh bien, passez toutes et tous une très belle soirée sur notre antenne.